I believed he was going to rape me. I tried to yell for help. When I did, Brett put his hand over my mouth to stop me from yelling.
Raphaël, on reconnaît l'accusatrice de Brett Kavanaugh, ce juge hein, qui a été nommé à la Cour suprême et ça disons que son accréditation à la Cour suprême n'a pas été facile il y a un an. Et là, il y a de nouvelles accusations contre Brett Kavanaugh.
En effet, remettons un petit peu le contexte d'abord et avant tout. On en a tellement parlé il y a un an, en fait, presque mois pour mois, semaine pour semaine. À l'automne 2018, on vivait un réel psychodrame à l'échelle nationale aux États-Unis parce que Brett Kavanaugh devenait le deuxième juge à être nommé à la Cour suprême par Donald Trump depuis le début de sa présidence. Et ça arrivait à un moment où, avec le départ du juge que Kavanaugh remplaçait, on avait quatre juges plus à gauche à la Cour, quatre juges plus à droite. Donc, c'était une nomination extraordinairement clé. Et à la toute fin du processus de confirmation, sort cette femme, Christine Blasey Ford, accusant Brett Kavanaugh non seulement d'inconduite sexuelle de façon très générale, là, mais en étant très spécifique, l'accusant d'avoir tenté de la violer alors que les deux étaient au secondaire. Mm. Brett Kavanaugh, lui, avait nié en bloc. Et comment ça s'est réglé? Eh bien, sur le plancher du Sénat des États-Unis, qui a voté à 50 contre 48 pour confirmer Kavanaugh. Donc, quand tu dis que c'était pas facile, écoute, c'est pas compliqué. Il s'agissait de la plus petite marge pour un juge confirmé à la Cour suprême de l'histoire des États-Unis. Donc, c'est encore très contentieux des deux côtés. Les démocrates jugent que c'est un siège qui est occupé pratiquement de façon illégitime depuis un an. Les républicains, de leur côté, voient dans toute cette espèce d'épisode-là une tentative de salir un homme respectable à des fins politiques. Et là, alors qu'on pensait avoir tourné la page, un an plus tard, un nouveau livre sort. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Deux choses vraiment majeures. La première, c'est un possible autre cas d'inconduite sexuelle dont on fait part dans ce livre-là, impliquant Brett Kavanaugh dans sa jeunesse. Et de l'autre côté, on cite également, écoute bien ceci, une amie proche de Christine Blasey Ford, la femme qu'on a entendue tantôt, qui était présente à la soirée lors de laquelle Ford dit avoir été agressé. Et l'amie en question dit ne pas croire l'histoire de Ford. Et pis encore, elle dit avoir été la cible de pression pour valider l'histoire de l'accusatrice de Brett Kavanaugh. Mmh, donc, imagine comment c'est chargé actuellement aux États-Unis. Tu as des démocrates d'un côté qui appellent carrément à la destitution de Brett Kavanaugh, là, juste pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, destituer un juge aux États-Unis, un juge à la Cour suprême. On n'a jamais vu ça de nos vivants. Là.
On n'a jamais vu ça, Raphaël, mais corrige-moi si je me trompe, les juges fédéraux comme ça, même ceux de la Cour suprême, sont soumis à la procédure d'impeachment, non?
Absolument. Donc, c'est constitutionnellement permis, mais ce n'est jamais fait dans la pratique. Donc, si on appelle à ça, c'est qu'on juge vraiment que c'est extraordinairement grave comme situation. Le président Trump, qui avait nommé Kavanaugh en premier lieu, lui, appelle plutôt le juge à lancer des poursuites pour diffamation. Donc, au final, on ne va clairement pas régler ce contentieux-là moindrement bientôt. Mais ce que ça fait, et ça, c'est important, là, d'un point de vue non seulement politique, là, mais je dirais social, c'est que ça vient ébranler la confiance publique envers une des rares institutions aux États-Unis envers lesquelles il y avait encore un minimum de confiance. Il y a une espèce d'astérix qui est à côté du nom de Brett Kavanaugh et qui va être là peu importe combien de temps il siège à la Cour et peu importe quelle décision il prend comme juge. Ça, c'est important.
Raphaël, l'autre juge qui a été nommé par Trump, c'est Gorsuch, c'est ça?
Gorsuch, oui.
Gorsuch, lui, il a été nommé après que la majorité au Sénat ait nié le droit de Barack Obama de nommer son juge en fin de mandat.
Je pense qu'il y en
a deux astérisques.
C'est exactement là que je m'en allais. C'est que tu as des démocrates qui sont sortis à plusieurs reprises, en fait, depuis un an, en disant qu'il y a deux sièges qui ont été, entre guillemets, volés à la Cour suprême. On rappelle qu'il y en a 9 à la Cour suprême, 2 sur 9. Là. C'est que tu commences vraiment à remettre en question pratiquement la légitimité d'une des 3 plus grosses institutions fédérales américaines après la présidence et le Congrès. Fait que je ne dirais pas qu'on est dans une crise de légitimité, mais ça a des airs de crise de légitimité. Là.
Si je peux faire un petit commentaire éditorial, ce serait peut-être temps que les démocrates commencent à jouer aussi dur que les républicains, parce que les républicains, eux, ils ont l'air de jouer pour gagner.
Bien, sais-tu quoi? Si les démocrates reprenaient le contrôle du Sénat, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et que Trump était encore président, disons, dans un deuxième mandat hypothétique, là, ça serait curieux, ça serait très intéressant de voir si le temps arrivait où Trump avait à effectuer une troisième nomination, comment les démocrates, avec la majorité, le pouvoir de la majorité, la jaurait.
Ils sont tellement coïmoles, Raphaël, tu le sais, qu'ils vont l'homologuer, son nominé.
On s'en reparlera.
OK. Un premier gros joueur de l'industrie pharmaceutique qui se place sous la protection de ses créanciers.
Oui, écoute, ça fait 3 semaines, je voulais te parler de ça. Il y a 3 semaines, à la fin du mois d'août, il y a eu un jugement de quelques 500 millions de dollars contre le géant pharmaceutique Johnson & Johnson, après une poursuite par l'État de l'Oklahoma. Pourquoi? Pour tout ce qu'on voit aux États-Unis depuis des années dans ce qu'on a appelé la crise des opioïdes.
Oui.
Et là, Johnson & Johnson s'en est relativement bien sorti parce qu'ils sont tellement gros qu'écoute, et ça c'est absolument ahurissant, là. Même avec un jugement de 500 millions de dollars contre la compagnie, les actions de la compagnie ont monté en fait après le jugement. Pourquoi? Parce que le montant était jugé moins élevé que ce à quoi les actionnaires s'attendaient. Donc ça donne une petite idée du poids de Johnson & Johnson, mais il y a une autre compagnie, c'est pour ça qu'on s'en parle cette semaine, qui elle l'a eu et va l'avoir pas mal moins facile, la compagnie Purdue, qui serait sur le bord de peut-être payer un versement ou des versements de quelques 12 milliards de dollars et donc s'est mis sous la protection de ses créanciers. Écoute, Purdue est poursuivi présentement par plus de 2000 gouvernements différents. Alors, on parle de villes, d'États, du gouvernement. Mm-hmm.
De comté.
Exactement, aux États-Unis. Et ce qu'on dit essentiellement, c'est que des compagnies comme Purdue ont sous-estimé pour le grand public les risques que posaient des médicaments comme les fameux antidouleurs. Donc, écoute, c'est gros. Et pour ceux qui ne prennent pas acte de l'ampleur de la situation, là, regardez juste de l'autre côté de la frontière du Québec, au New Hampshire. C'est le deuxième État le plus touché aux États-Unis par ce problème-là. On parle de 28 overdoses liées aux opioïdes par 100 000 habitants.
Raphaël, ce qu'on reproche à ces compagnies-là, c'est quoi? C'est d'avoir su que les médicaments antidouleurs causaient des dépendances, mais de l'avoir quoi? Un peu caché?
De l'avoir sous-estimé. Et par le fait même également d'avoir peut-être surestimé ou vraiment vendu beaucoup, beaucoup aux médecins et à la population le besoin de traiter les problèmes de douleur avec des médicaments comme l'oxycontin qui, on le rappelle, sans jouer aux chimistes, là, ont des racines communes avec l'opium. C'est très, très fort. Et donc, on est là-dedans présentement, mais je te dis, c'est pas un dossier qui est sur le bord de se régler.
Et finalement, le premier attaché de presse du président Trump, Sean Spicer, effectue un retour à la TV.
Quelque chose de spectaculaire. Écoute, habillé en fluo, dansant sous Spice Up Your World des Spice Girls. Fait que si t'as des images en tête, là, je te jure, c'est pire de voir la vidéo intégrale.
Écoute, c'était un clown quand il était l'attaché de presse de M. Trump. Et il continue dans les clowneries. Raphaël?
C'est quelque chose. C'est quelque chose à voir.
Merci. 16h56.